Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
On dit souvent que les murs ont des oreilles.
Là-haut sur la colline.
Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
Mais bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons d'une chicane de juges. Patrick, ça nous érotise. Dans le dossier de la nomination des juges, justement, le gouvernement Trudeau est sévèrement blâmé par un tribunal, la Cour fédérale, qui le fustige. Elle considère qu'Ottawa tarde trop à nommer des juges.
Oui. Et comme ça se passe en Ontario, on en parle un petit peu moins ici, mais c'est une grosse affaire.
Ouais, hein?
C'est le juge Henry Brown de la Cour fédérale. Il est saisi d'une requête par un avocat dans un dossier où il va être très, très, très sévère à l'endroit du gouvernement Trudeau. À ma grande surprise, là, c'est une décision à la fois étonnante et créative. Il dit des choses comme, je cite le paragraphe 6 de la décision, là, le premier ministre et le ministre de la Justice font du surplace, je saute quelques lignes, ils ont manqué à leur devoir envers tous ceux qui comptent sur eux pour exercer en temps voulu leur pouvoir, tous ceux qui ont cherché en vain à obtenir justice dans des meilleurs délais. Alors c'est quoi le manque, le blâme, il porte sur quoi? Il porte sur cette manière... ça a toujours été le cas, là. Le fédéral nomme tous les juges des cours supérieures. Cours supérieures, oui. Cours d'appel, cours suprême. Il y en a toujours à nommer, puis ça prend toujours un peu de temps. Mais là, les délais se sont accentués. Il y a beaucoup, beaucoup de retard. L'an dernier, on avait parlé à ce micro ensemble. C'est parce que sur le plan de la diplomatie interinstitutionnelle, là, c'était assez gros, c'était assez inédit. Le juge en chef Wagner, ça c'est le juge en chef de la Cour suprême, puis c'est aussi oui. Le président du Conseil de la magistrature du Canada, avait pris son chapeau de chef de syndicat des juges, là, j'exagère à peine.
Il avait envoyé une lettre, hein?
Oui, pour écrire au premier ministre une lettre, et la lettre avait fuité dans les médias. Je crois que c'est Daniel Leblanc de Radio-Canada CBC qui avait eu l'exclusivité, puis on avait
qui était avec ensemble. Nous un passionné de la question oui. Des juges.
Exactement.
Daniel. On le salue d'ailleurs. Je pense qu'il il regarde et écoute là-haut sur la colline.
En effet. Et donc, la lettre qui est publiée, c'est au fond l'essentiel de la preuve dans notre procès là, dont on parle. C'est-à-dire que l'avocat, il prend la lettre qui a fuité l'an dernier, il amène ça devant le tribunal puis il dit, là, je veux que vous condamniez Justin Trudeau. Parce que c'est écrit dans la lettre, là, le juge en chef, il dit, là, c'est très grave ce qu'il fait, le premier ministre. Les avocats du fédéral, ils disent, c'est pas sérieux, on va dire que c'est pas justiciable, que des moyens préliminaires, ça va être rejeté. Il y avait quelques exemples similaires, là, puis ils se disaient, on va s'en sortir facilement. Ben non, le juge il a tout acheté l'argumentaire. Et là, le gouvernement Trudeau se retrouve avec un blâme, un jugement déclaratoire qui dit qu'ils sont en faute là sur la nomination des juges.
Alors, mais les juges sont pas... tu sais, il y a un principe, il me semble, fondamental en droit, faut pas être juge et parti.
Là, c'est comme... ça qui est un peu délicat, hein. C'est que on dirait il y a comme deux tendances. Il y a une idée qui voudrait que la justice fasse preuve de réserve et de retenue, a fortiori quand ça les concerne.
Ben oui.
Et là on est là-dedans, là, c'est le fonctionnement des tribunaux, c'est quasiment leurs conditions de travail. Plus les juges sont nombreux, plus ça va bien aller au tribunal. Et il y a quand même une autre tendance de plus en plus présente qui, au contraire, laisse croire que plus ça les concerne, plus ils interviennent.
Ah bon?
Et des fois les débats sur l'indépendance judiciaire, Antoine, ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à savoir si tu dois payer ou non ta vignette de stationnement dans le parking du palais de justice.
On a déjà parlé de ça, oui.
Exactement. Donc, ça dépend des juges. Et ce juge-là, il a décidé que la question de l'absence de nomination, c'était fondamental. Fait que le jugement, il reprend en grande partie la lettre. Et dans la lettre, on se rappelle, là, on nous disait des choses comme en Alberta, 22% des affaires pénales sont rejetées parce qu'ils sont hors délai sur l'affaire Jordan. Mais en plus, dans ça, on a déjà fait le ménage parce que ces dossiers-là, c'est 91% du temps des affaires de crimes graves et violents. on a des chiffres similaires quand même. Au Québec, récemment, le ministre de la Justice faisait le bilan. On le voit que le système est surchargé. Alors, le juge Brown de la Cour fédérale, il s'interroge pas sur une question qui, pour moi, est assez fondamentale. C'est pourquoi ces retards? Et il dit c'est la faute de Justin Trudeau.
Et comme Pierre Poilievre.
Oui, oui, le Canada est brisé, c'est de la faute de Justin Trudeau. Pourquoi il blâme pas les comités administratifs, le consultatif qui prépare les demandes? Ouais. Encore une fois, il met tous ses œufs dans la lettre du juge Wagner. C'est-à-dire que lui, là, dans sa tête, là, le reportage journalistique de l'excellent collègue Daniel Leblanc, ça c'est comme un témoignage d'expert. Et donc, il se dit, dans la lettre du juge Wagner, c'est bien écrit, le juge Wagner dit, j'ai parlé au ministre de la Justice, le ministre Lametti, il est de bonne foi, il veut que ça marche bien, on est confiant. Puis là, le juge Wagner ajoute, il faut par contre qu'au niveau du cabinet du premier ministre, il faut pas qu'il y ait de blocage. Je trouve pas la formule exacte, je vais la retrouver tout à l'heure, mais il pointait vraiment en direction du cabinet du premier ministre. Pourquoi, au fond, c'est de la faute de Justin Trudeau que ça, pourquoi ça retarde, là? C'est difficile d'imaginer pourquoi. Est-ce que le gouvernement de Justin Trudeau voudrait sauver de l'argent, dépenser un peu moins en salaire de juge? Ça serait quand même étonnant. C'est pas un gouvernement qui est particulièrement économe, surtout pas sur des questions de principe, sur des questions de droit.
Pour eux, l'argent, c'est ductile.
Moi, ma petite hypothèse, Antoine, mais ce n'est qu'une hypothèse, c'est pas une information.
Mais on aime toujours tes hypothèses.
Ben écoute, que tout ça confirme que les comités prédécisionnels, puis juge Wagner, il dit même au cabinet du ministre de la Justice, ça va bien, ils font avancer les dossiers, ça bloque en dernier. Ça bloque où? Dans la phase la plus politique du processus de nomination. Ça veut dire, et c'est normal, le pouvoir politique veut faire des vérifications. Et avant, le pouvoir politique, du moins au début des années Justin Trudeau, prenait des raccourcis. Des fois, les vérifications, c'était tout simplement d'aller dans la base de données du parti. Et là, on trouvait...
La libéraliste!
Ben exactement, lui a déjà donné, lui a déjà participé à un cocktail. Des fois, c'était de consulter du personnel politique, des députés, mais de la majorité seulement. Et là, ils se sont fait prendre là-dedans.
Ah, moi, j'ai écrit une histoire là-dessus. Bien sûr. L'associé du financier de Diane Leboutier en Gaspésie qui a été nommé juge. Après une intervention, j'avais la preuve d'un courriel. Ce qui passerait pas au Québec en passant, mais je referme la parenthèse.
Mais depuis qu'ils se sont fait prendre, on peut penser, c'est mon hypothèse, que là, les vérifications, c'est un peu plus long.
Ah.
Mais on veut quand même les faire. Parce que nommer un juge à vie qui est inamovible pour interpréter la Constitution dans des termes très vagues et lui faire dire plein de choses... C'est très important là pour l'avenir philosophique, politique, idéologique du Canada.
Ben oui.
Donc, mon hypothèse, c'est que si ça retarde, c'est parce qu'on veut s'assurer de nommer des juges compatibles avec les valeurs ou les idées portées par le cabinet de Justin Trudeau. Et donc, c'est quand même assez fascinant de voir ce juge qui dit, ben là, on peut pas attendre plus longtemps, en se basant sur une preuve qui est quand même loin, qu'une lettre d'un juge en chef qui est plus dans une dynamique de représentation que dans un rapport d'évaluation de la situation. Dans un litige où les contre-arguments ont été assez peu plaidés parce que les avocats du fédéral, ils étaient sur des questions préliminaires, ils étaient sûrs que ça allait être rejeté.
Ben oui.
Pourquoi ils étaient sûrs que ça allait être rejeté? Parce que il y a à peu près 12 mois, en Cour fédérale, à la suite des problèmes d'éthique, des reportages journalistiques, dont le tien et plusieurs autres...
C'est ceux de Daniel Leblanc, oui.
Démocratie Watch, ou Démocratie sous surveillance, avait saisi la Cour fédérale pour dire, là, la Cour fédérale, vous allez intervenir dans le processus de nomination, parce que il y a vraiment des manquements éthiques importants, puis il faut que le tribunal intervienne. Et cette fois-là, le tribunal avait dit, non, la nomination, c'est pas de nos affaires, ça, on se mêle pas de ça. Et donc, le fédéral était très, très, très confiant de ses chances de dire, faites comme dans l'affaire Democracy Watch. Mais là, ce fois-là, le juge a dit, non, en s'appuyant sur Democracy Watch, en s'appuyant aussi sur la fois où le gouvernement Harper avait pas respecté sa propre loi sur les élections à date fixe. On va dire, hey, on est loin loin là, de la nomination des juges, mais on est toujours dans ce que le premier ministre recommande au gouverneur général. C'est les pouvoirs qui appartiennent officiellement au gouverneur général, mais le premier ministre vient dire hey, « vous devriez faire ça ». Et dans cette affaire-là, ben évidemment, le gouvernement Harper avait pas eu de blâme non plus. Donc, le fédéral était très, très, très confiant et là arrive ce jugement surprise.
Quelles sont les conséquences?
Ah ben là, c'est un jugement plein de flou, Antoine.
Ah bon?
D'abord, on dit...
Mais il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de... Comment ça marche?
C'est un très sévère blâme.
C'est un blâme, oui, c'est ça.
Mais on fait un jugement déclaratoire. Donc, on déclare que c'est très grave que ce qui se passe, mais on peut pas forcer Justin Trudeau à nommer des juges. Mais là, en plus, comme il y a toujours eu des sièges vacants, là, le juge essaie de se prononcer à la fin pour dire « ça serait quoi un seuil de juge vacant raisonnable? »
Oh mon Dieu.
Et là, ça devient du délire. Là.
Ah,
et là,
ouais?
Il dit « ben, je trouve qu'en 2016, on en avait deux fois moins. Ça, ce serait un seuil raisonnable. » Il est comme obligé d'admettre lui-même qu'il est très, très mal placé pour évaluer quel seuil,
ben
parce
oui.
qu'il sait bien que le seuil zéro est impossible. Là. Et donc, en tout cas, c'est plus comme un coup de fouet que donne le pouvoir judiciaire. Et donc, ça aura très peu de conséquences, parce que d'abord, il pourrait y avoir une alternance politique assez vite. Deuxièmement,
mais ça va être en appel, ça va aller en appel même.
Ça va aller en appel.
Ouais.
Et si jamais le gouvernement Trudeau continuait à avoir des délais, ben je vois mal le juge qui je vois mal qui pourrait saisir à nouveau le tribunal pour lui demander de faire un pas de plus. Le tribunal au pire va répéter la même chose, genre c'est pas bien, c'est pas la bonne chose à faire, mais quand même c'est une décision qui a des conséquences chez nous aussi. Et qui amène quand même qui est très audacieuse là, et qui peut avoir des effets positifs par ailleurs sur quand quelqu'un détient un pouvoir, s'il s'assoit dessus de façon un peu à paralyser un peu. Je pense pas que c'était le but de Justin Trudeau là, de paralyser le pouvoir judiciaire, mais peut-être que son besoin de vérifier qu'on nomme des gens compatibles à ses valeurs, ça a là pour effet de paralyser le pouvoir judiciaire. Et on peut le voir dans d'autres domaines, peut-être que par analogie, la décision pourrait produire des effets insoupçonnés ailleurs. Pour le moment, je pense qu'elle a plus de chances d'être cassée en appel.
Ah ben oui.
Mais il faudra voir. Hein, parfois,
ça va en appel où, ça, la Cour fédérale?
Cour fédérale d'appel, mais bon.
En Cour fédérale d'appel, puis sinon...
Éventuellement, Cour suprême.
Ça irait, OK.
T'imagines si c'était le juge Wagner qui avait à juger de la seule preuve au dossier qui est la lettre qu'il a écrite lui-même.
Oui. Encore une fois, il se retrouverait dans une situation. On avait souligné, je sais pas si tu te souviens, quand il était gouverneur général
par intérim,
par intérim, il aurait pu signer une loi qui, par après, il aurait invalidé comme juge, en tout cas.
Fort probablement que si le dossier sera en Cour suprême, on va isoler le juge en chef, on va dire tu sièges pas sur ce truc. Mais quand même, ça montre bien qu'il y a, dans cet activisme-là, d'être toujours un peu plus rigoureux et vigilant quand ça concerne les juges, une espèce de spirale dans laquelle je suis pas certain que ça sert l'avantage, la confiance du public dans l'administration de la justice, de voir des juges aussi hyperactifs, volontaires, lorsque ça les concerne.
C'est ça. Ils sont juges et partis. Moi, j'en démarre pas. Je me souviens de l'affaire de Nadon aussi. Là, j'en revenais pas que les juges... Finalement,
qui se prononçait sur un collègue qui était...
Sur le collègue, tu sais. Je ne comprends pas certaines choses dans notre beau Dominion, mon cher Patrick. Merci infiniment.
Merci à toi.
Encore une fois, une stimulante chronique constitutionnelle et on se reparle la semaine prochaine.
À bientôt.
Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.